Alors, est-ce que vous avez entendu très souvent une prédication sur Jérémie 23? Je parie que non, parce que c'est un chapitre pas très agréable. Et cependant, il est biblique. C'est un message biblique à 100%. En général, chez Ésaïe, vous allez trouver des textes durs sur le leadership. Quand on dit par exemple, et si Dieu ne nous a pas donné un peu de, je ne sais pas quoi, de miséricorde, nous serions comme Sodome et comme Gomorre. Écoutez les chefs de Sodome, écoutez les chefs de Gomorre. Donc, si on parle à l'église, aux responsables d'église, on dit, écoutez les chefs de Sodome et Gomorre. Ça veut dire que c'est assez grave comme message. Chez Jérémie, tout un chapitre qui est très clairement, c'est ce qu'on va essayer de voir, tout un chapitre qui dit très clairement ce qu'on pense du leadership. Et moi, je dirais, après avoir étudié pas mal de textes de la Bible, Dieu, à travers Jérémie, a 100% raison. La raison principale de la stagnation de l'Église, si stagnation il y a certains pays où l'Église fleurit incroyablement. Je dis, loué soit le Seigneur. Des fois, ça stagne et des fois, ça diminue. Eh bien, partout où il y a la diminution, c'est le problème de leadership. Je considère que c'est le problème essentiel de l'Église. Et ça restera jusqu'à son retour. C'est comme ça. Alors, la première chose, c'est le premier texte. Donc, je suis le texte. Tout au long, je suis le chapitre 23 du prophète Jérémie. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Vous voyez bien la distinction. Le troupeau m'appartient. Et vous avez fait des choses qui ne sont pas bonnes pour ce troupeau-là. C'est-à-dire, vous détruisez et vous dispersez mon troupeau. Le troupeau reste à moi. Le troupeau est toujours la propriété de Dieu. Même lorsqu'une église se divise, tous les gens qui font partie de ces églises divisées appartiennent à Dieu. Et Dieu va tout faire pour récupérer son autorité sur le troupeau. Donc, quelque part, un leader doit toujours se rappeler qu'il ne gère pas ses membres. Donc, en général, quand tu dis, pasteur, oui, mes membres, j'ai trois églises et je ne sais pas, 400 membres. Ce ne sont pas mes membres. Ils appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui me les confie pour que je prenne soin d'eux. Dieu attend de moi à ce que je les sers. Et quand on dit servir, c'est pas juste une belle phrase ou une image, c'est la réalité parce qu'il avait fait ça. Et si vous avez oublié, je vous rappelle Éphésiens au chapitre 5 où Dieu dit, femmes, soyez soumises. Et il a dit aussi, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier, etc. Et il dit, ce mystère est grand et je parle pour le Christ et son Église. Donc, pas seulement que ce mystère est grand, que le mari aime la femme, etc. Mais ce mystère où le Christ lui-même se sacrifie pour son épouse, pour l'Église, est extraordinaire. Et donc, il est tout à fait normal à ce que Dieu, dans un vocabulaire dans un langage de jalousie presque, et fâché avec ceux qui détruisent et qui dispersent le troupeau de Dieu. Il est tout à fait normal. Deuxième, il dit comme ça, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, les mauvais leaders peuvent chasser et disperser le troupeau de Dieu. C'est complémentaire avec ce que nous avons dit au numéro 1. Au numéro 1, nous avons dit que le troupeau appartient à Dieu. Mais nous disons aussi que même si ce troupeau appartient à Dieu, il se peut que ce troupeau soit dispersé. Si vous vous rappelez de Jean 10, Jésus dit, il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas. Celles-là, il faut que je les cherche, il faut que je les ramène. Dieu a toujours tendance à regrouper, à faire venir, à unifier. Malheureusement, qu'on appelle ça les mercenaires, ils parlent. Les brebis ne connaissent pas la voix des mercenaires. Ils connaissent la voix du berger. Et malheureusement, parce qu'elles entendent trop fortement la voix des mercenaires, ils se dispersent. On voit la situation assez clairement quand on se rappelle que les chrétiens officiellement inscrits à World Council of Churches, ils sont 348 églises, les conditions d'accepter Jésus-Christ et la Trinité, et il y avait 348 avec plus de 10 000 membres. On est vraiment bien dispersés. Quand on regarde ce que... Et donc nous ne sommes pas dedans, les catholiques ne sont pas dedans, mais c'est quand même énorme quand on réfléchit. Et on ne doit pas regarder seulement au niveau du christianisme, on peut même voir au niveau de l'Église adventiste qu'il y a pas mal à droite où le troupeau de Dieu souffre. Voilà. Donc juste pour dire qu'une des raisons essentielles pour la dispersion du troupeau, c'est la qualité des leaders, qui n'est pas bonne. La nécessité du reste... Donc, vous savez que nous avons un concept de l'Église du reste, provient essentiellement aussi à cause du fait qu'il y a des leaders non consacrés. Le fait que Dieu appelle le reste à lui est la conséquence que la majorité des membres sont partis suivre des faux leaders. Est-ce qu'on peut dire comme ça? C'est un peu comme ça. C'est le texte dit. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Ce qui est très intéressant, c'est que quand Dieu parle de son troupeau, il parle aussi de son pâturage. Donc, il sait très bien ce que ça signifie. Pour citer Psaume 23, il me fait reposer... Vous connaissez cela? Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est ça ce que les membres, le troupeau, ont besoin. Ils ont besoin de vrais, des pâturages verts qui vont permettre à ce qu'ils soient nourris correctement. La nécessité du reste provient du fait que des leaders non consacrés avait conduit le troupeau entier intégral dans l'esclavage. Et ça provient justement du verset précédent. Il dit, vous avez dispersé mes brebis, vous en avez chassé. Vous verrez par la suite, ils sont partis dans tous les pays. C'est la réalité du peuple d'Israël. Et maintenant, il fallait que Dieu réunisse ensemble le reste. Si nous, on parle du reste, de l'Église du reste, on reconnaît que... Il faut parler de cela parce que, en général, l'Église de Dieu n'était pas à la hauteur de ce que Dieu pouvait espérer. Et c'est la raison pour laquelle on insiste énormément sur la qualité des leaders parce que, je vais dire comme ça, dans mon pays, on a une expression qui se rime, qui est très bien et qui dit à peu près comme ça parce que chez nous, on dit en général que le poisson sent mauvais. Donc, il est très fort, mais et on dit chez nous, c'est de la tête que le poisson sent mauvais. Donc, c'est un proverbe qu'on peut entendre un peu partout. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. biologiquement parlant, j'ai aucune idée. Mais ce n'est pas l'attitude d'un individu qui est marginal pour une institution qui va déterminer la qualité de l'institution. C'est la qualité de leadership qui va faire que l'institution fonctionne bien ou ne fonctionne pas. Numéro 4, et je pense que j'en ai 20, et je suis vraiment désolé, mais j'ai mis dehors tout le reste, j'ai juste voulu vous laisser avec la Bible. Il y a une relation indiscutable entre la qualité des leaders et la croissance du troupeau. Quelque part, Dieu dit, lorsque je vais prendre charge du troupeau, les brebis seront fécondes et multiplieront. Et si vous lisez le texte précédent, je rassemblerai le reste de mes brebis, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Donc, quand il y a un bon leadership, quand Dieu s'occupe de son Église, quand il y a la bonne nourriture, la conséquence inévitable, c'est la fécondité et la multiplication. Toutes sortes de croissance, pas seulement numérique, mais entre autres numérique. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Ce qui nous montre, premièrement, combien chaque brebis est précieuse aux yeux de Dieu, mais ce qui est dit ici, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, ce qui voudrait dire qu'avant c'était le cas, il y avait la crainte et la terreur. Mais j'aimerais vous dire ça, j'établirai sur elles des pasteurs. Mon concept de la théologie pastorale est inspiré de Jérémie. Vous pouvez noter ce texte, il est vraiment bien. Je me réjouis chaque fois de le citer de nouveau. Voilà ce que Dieu dit. Je vous lis, pour être court, à partir de verset 14 du chapitre 3. Jérémie 3, 14. Revenez, donc Jérémie 3, 14. « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et tout de suite après, on parle de la multiplication. Alors regardez bien ce texte, il est vraiment magnifique. Il dit quelque chose comme cela. Et j'appelle cela. Les gens se posent la question, comment faire venir des amis à l'église? Je dirais que la préoccupation la plus importante n'est pas de faire venir les gens à l'église, mais de les faire venir à Dieu. Et quand on les fait venir à Dieu, c'est Dieu qui les ramènera à l'église. Quand il dit ici, venez à moi, il dit très clairement, je suis votre maître. Quand vous venez à moi, je vous prendrai partout où vous êtes dispersés parmi les nations et je vous ramènerai dans Sion. Sion, l'exemple, ou si vous voulez, l'image de la montagne de Dieu, du temple, du centre de la vie religieuse de l'époque. Donc, comment on ramène les gens à Sion? En les ramenant en Dieu. Comme je dis toujours, ça c'est ma déclaration. Le chemin le plus court pour les gens de venir à l'église, c'est de venir à Dieu. Parce qu'autrement, le chemin est trop long. Parce que nous, on est obligés de convaincre les gens de se fatiguer, de faire. Dès qu'ils viennent à Dieu, ils trouveront toujours l'église. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que nous, on ne les ramène pas souvent ou pas assez à Dieu pour que Dieu leur dise ce qu'ils doivent faire. Et deuxièmement, il dit, je vous donnerai des bergers. Donc, vous reviendrez à moi, c'est la première caractéristique. Ensuite, je vous ramènerai dans Sion et je vous donnerai les bergers. Est-ce que je peux dire comme ça et vous me direz si vous êtes choqué? Un bon pasteur est un don de Dieu à celui qui est revenu à lui. Alors j'essaie de répéter encore une fois. Un bon pasteur est un don de Dieu à celui qui est revenu à lui, qui est revenu à Dieu. Plus les gens sont éloignés de Dieu, plus ils auront du mal à reconnaître les bonnes choses dans leur pasteur. Plus ils vivent selon la chair, plus ils poseront des problèmes à leur pasteur, à leur leadership. Parce qu'ils n'ont pas reçu leur pasteur comme don de Dieu. Ils ont juste accepté, c'est le vote de la fédération. Bon, tous les pasteurs viennent dans une église après le vote de leur fédération. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'ils deviennent vraiment des bergers, parce que pasteur, ça signifie cela, bergers des membres d'église. Je dis juste comme une anecdote, quand j'étais pour la première fois en Autriche, on avait une rencontre pastorale, ma première rencontre avec les pasteurs d'Allemagne du Sud et nous d'Autriche. Et là, on m'avait présenté et j'ai dit quelque chose et puis après, je me suis assis, ils ont applaudi, puis etc., etc. Et souhaité la bienvenue. Et puis ensuite, à mes côtés, il y avait un pasteur âgé et dit... c'est la première fois pour toi que tu viens travailler dans un champ germanique, c'est comme ça on dit. Alors je dis oui. Et est-ce que tu comprends ce que ça veut dire pasteur? Je regarde comme ça bizarrement et je dis oui, bien sûr, pasteur ça signifie berger. Et il me dit, parce qu'on avait parler en anglais, alors il me dit « Welcome to the club of German Shepherds ». Donc je suis devenu German Shepherd. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si nous sommes bergers, parce qu'il y a, comme dit l'apôtre Pierre au chapitre 5, parce que quand lui, le souverain berger, apparaîtra, etc., nous paissons le troupeau de Dieu, mais c'est lui qui est le berger suprême. Nous, on n'est que German Shepherds. On est juste pour aider, pour soutenir. Tu as voulu dire quelque chose, excuse-moi. Vous comprenez où est le problème? Pourquoi les gens ont une mauvaise perception de leur pasteur? Parce qu'ils n'ont pas passé par un réexamen de leur relation avec Dieu, etc. Et ils réagissent humainement. Oh, celui-là, il n'est pas très talentueux, il n'est pas bien adapté pour les jeunes, ou il est trop vieux, il est trop jeune, il est trop ceci et trop cela. Et on juge selon nos critères humains. Au lieu de comprendre que le point numéro un, c'est revenez à moi. Et je vous ramènerai ainsi. Donc, je... intensifierez votre relation avec la communauté à laquelle vous appartenez. Donc, vous vivrez pleinement votre expérience d'église. C'est à peu près ça. Donc, vous venez à moi, je vous permettrai de vivre une expérience pleine d'église. Et en plus, en cadeau supplémentaire, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc, le pasteur est un don de Dieu, un berger selon son cœur. C'est un don de Dieu qu'il donne à ceux qui reviennent à lui. Parce que si on ne revient pas à lui, c'est assez difficile. Plus les gens reviennent à Dieu, plus ils verront, même chez un pasteur qui a quelques défaillances ou problèmes, etc., plus ils verront l'action de Dieu et plus ils se laisseront interpeller par son ministère. C'est un peu comme ça. Donc un leader devrait toujours être considéré par les membres qui ont passé par leur conversion, ils devraient toujours être considérés comme un don de Dieu. C'est ça. Un leader, c'est un don de Dieu.
En fait, je suis totalement d'accord à ce qu'un pasteur, vraiment, c'est, comme a dit dans Jérémie, que c'est Dieu qui établit.
Voilà, c'est ça.
Pasteur, donc, c'est un don de Dieu.
C'est
donc, le pasteur en tant que tel a reçu l'appel pour être pasteur. C'est sûr, certain que souvent les membres d'église jugent avec les critères humains, pas ça. Mais il ne faut pas se cacher non plus qu'il y a probablement, il y a forcément, c'est sûr et certain qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas appelés ou des pasteurs qui n'ont pas la vocation ou le don de le faire. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que en tant que membre, on n'a pas l'autorité ni le droit.
C'est la raison pour laquelle c'est le comité de l'Union après toutes les... Donc, une fédération qui emploie le pasteur ne peut pas voter la consécration de ce pasteur. C'est fait avec raison, afin qu'il n'y a pas je t'emploie et je te consacre. Vous comprenez? Il y aurait comme un vice de forme. Parce qu'on pourrait très bien avoir un président qui reste 10 ans et quelqu'un qui termine l'université, le séminaire, et dans, je vais dire, 3 ans, 4 ans, il est déjà pour la consécration. Ben, il suffirait presque que quelqu'un soit l'ami de président, et puis sans avoir vraiment le don ou l'appel ou la consécration et tout. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est la raison pour laquelle d'autres institutions réfléchissent pour découvrir est-ce qu'il y a vraiment un appel. Et je ne suis pas sûr que ça marche à 100%. Probablement, il faudrait trouver encore plus d'éléments pour juger impartialement, mais c'est un peu comme ça. C'est vrai, on pourrait dire tous les pasteurs ne sont pas don de Dieu, mais uniquement ceux qui... Où est-ce que c'est ça? Comme il dit ici, donc c'est Jérémie, et ils les paîtront selon les bergers selon mon cœur. C'est ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, quelque part, il faudrait, quand on parle des leaders, il faut parler du don de Dieu. Allez, on continue. Le reste s'attachera au Messie, vivra la justification par la foi. Donc, comme vous n'avez jamais entendu un sermon sur Jérémie 23, peut-être vous avez entendu quelquefois le verset 6, je crois. Non, j'ai déjà oublié lequel, mais où on parle l'Éternel, notre justice. En fait, le reste s'attachera au Messie et vivra la justification par la foi. Et quand vous voyez, voici les jours viennent, au milieu de la catastrophe au niveau du leadership, où on se rend compte que le leadership a totalement dévié de ce qu'il devait faire, Dieu parle, il y aura un autre leader. Je vais susciter un germe juste. Il régnera en roi, prospérera, pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En somme, tout ce que vous voyez ici, c'est la nécessité de leadership. Tout ce que le leader devait faire, mais malheureusement, il n'a pas fait. Et donc, c'est Jésus qui vient en vrai leader. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Donc, le nom de Juda et d'Israël sera l'Éternel, notre justice. Ce qui voudrait dire que righteousness by faith, la justification par la foi, est le centre même de l'identité des croyants dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pas seulement dans le Nouveau Testament. Mais l'Éternel, notre justice, est au cœur même de l'Ancien Testament. Et ce qui est réconfortant, et c'est ce qui devait être au centre du ministère de tous les leaders. Qu'est-ce qu'on devrait promouvoir? On devrait promouvoir cette réalité parce qu'on travaille au salut des gens, on aide les gens à ce qu'ils aient une bonne relation avec Dieu pour être sauvés, pour être en sécurité et porter le nom qui est le leur, l'Éternel, notre justice. C'est, je trouve, extraordinaire comme message central. Vous avez un leader mauvais dans votre église, commencez à prêcher la justification par la foi. C'est la seule chose qui vous reste. Il ne vous reste pas beaucoup de choses. Priez, etc., etc. C'est Dieu qui est notre justice qui révolutionnera des choses. Je ne vois pas autre chose.
Ici, on dirait que c'est Dieu lui-même qui dit, c'est comme
pas utiliser le roi ou les soldats.
C'est ça, il doit être le roi.
C'est moi qui va l'enlever. Voilà. Est-ce que l'application, c'est la même chose aujourd'hui où on dit, OK, s'il y a quelqu'un qu'on croit est un leader, mais peut-être il fait toutes sortes de choses, de conneries ou je sais pas. Est-ce que c'est la même attitude que nous devons avoir pour dire Dieu, il va prendre soin de lui, peut-être il va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais c'est Dieu qui va, tant et aussi longtemps qu'il ne commet pas d'adultère.
Ça, tu touches quelque chose de...
Dieu va prendre soin de lui. Est-ce que c'est ça l'attitude que nous devons avoir? Et moi, je ne parle pas des leaders que... OK, il n'est pas bon bien avec les enfants, alors je veux un autre pasteur ou quelque chose comme ça. Non, je parle d'un leader. Parfois, on se demande, par les fruits, on se demande, on ne veut pas juger.
Ouais.
Parfois, on dit, ben, je vais prier pour lui, prier pour elle. Et la question, est-ce que c'est une bonne conclusion que c'est comme ça qu'on devrait aussi agir aujourd'hui?
Je dirais, je suis un peu plus sceptique de laisser les choses telles qu'elles sont. Je préfère toujours dire des choses, mais d'une manière chrétienne, avec beaucoup d'amour. Et je suis désolé, nous vivons tous comme pasteurs de la dîme. C'est un argent pas comme les autres. On ne peut pas dire que c'est comme... Et si on essaie de se coucher tranquillement dans notre lit après une journée de travail et qu'on se dit qu'on avait fait ceci, cela, cela pourvu qu'on n'a pas fait l'adultère, comme tu dis, je ne sais pas, quelque part au fond, c'est trop sacré, notre ministère est trop sacré pour qu'on le... Pour qu'on dise seulement, OK, j'espère qu'il va se réveiller dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, ou quelque chose comme ça. Moi, mon concept, c'est toujours, c'est pour ça que nous avons nommé ici, quand j'étais là, un assistant au président, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer quelqu'un à temps plein, parce qu'on n'a que 24 pasteurs. Le directeur de la... L'association ministérielle est essentielle. Pourquoi? Les pasteurs sont trop seuls, totalement déconnectés de la réalité de la fédération. Et afin d'être à leur écoute, de les aider dans leur ministère, de les aider à grandir, de les aider à éviter les erreurs monumentales qu'ils peuvent faire, il faut que quelqu'un soit près d'eux. Parce qu'au fond, on essaie d'imaginer la fédération. La fédération ne peut pas se vanter de ses bâtiments, ne peut pas se vanter de son argent. Et je pourrais expliquer longtemps tous mes points. Parce qu'il y a des gens qui disent on a tant et tant d'églises, tant et tant, etc. Et la valeur, c'est tant et tant. Come on. C'est rien du tout. Et même cela n'appartient pas réellement à la fédération, ça appartient aux églises qui l'utilisent. Donc, est-ce que nous, on peut dire, ben voilà, on est fiers parce qu'on a des bâtiments, ou on est fiers parce qu'on a de l'argent? La seule chose qu'on peut offrir aux églises qui nous constituent comme fédération, ce sont les ressources humaines. Et si les ressources humaines sont mal perçues, c'est la fédération qui est mal perçue. C'est l'œuvre de Dieu qui est mal perçue. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour éviter à ce qu'un pasteur puisse longtemps faire son ministère comme cela ne convient pas. Donc moi, je suis plutôt ouvert. Je ne pense pas que le temps devrait changer toutes sortes de choses parce que c'est quand même l'argent de la dîme qui appartient à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument à ce que nous puissions nous inspirer du texte précédent qui dit très clairement que c'est Dieu qui établira... où est-ce que c'est... Oh, mince. Voilà. Je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions. Moi, je ne veux pas que la fédération châtie les gens. Mais la fédération a le devoir essentiel. Beaucoup plus. Donc, on est à l'aise au niveau de du comité de la fédération, n'importe où, de dire à une église, écoutez, vos bâtiments ne sont pas selon les règles de sécurité dans le pays. On vous donne 6 mois, 1 an, mettez toutes choses en conformité. Moi, ça, j'avais déjà fait plusieurs fois. Parce que sinon, ça devient dangereux. Imaginez qu'il y a un accident, et il y a les pompiers qui arrivent, etc. Ils font le rapport, on va payer des amendes incroyables qui vont faire couler toute la fédération. Donc, on n'a aucun problème à dire aux églises, aux pasteurs, réglez le problème avec le bâtiment. Mais quand même, quelque part, il faudrait qu'on ait la possibilité de dire, écoutez, vous êtes un leader, ben, c'est comme ça. Ça, c'est la direction. C'est comme ça que le Seigneur attend de nous et exige à ce que ça soit fait. Je pense que une bonne partie des pasteurs n'ont pas de problème avec ce que je dis, mais certains auront le problème parce que ils veulent travailler seuls. Mais je ne suis pas en faveur de la solitude parce que ça n'aide pas beaucoup de personnes et beaucoup d'églises. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Oui. L'assistant pasteur va sur le terrain rencontrer ces pasteurs-là, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est la seule chose que nous offrons aux églises, c'est le corps pastoral. Nous n'offrons rien d'autre. Je ne sais pas si on m'explique, je veux bien comprendre que la fédération existe pour autre chose. Mais la fédération essaie d'aider les églises dans tous les sens. Et le plus de ce qu'ils donnent, c'est le pasteur. Et très souvent, les églises ne se rendent même pas compte parce qu'ils n'aiment pas le pasteur. Et ils disent, mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Ben oui. Combien de fois... Moi, je dis, écoutez, regardez pour les 5 dernières années, quel est le montant de l'argent qu'on a fait. Oh, mais c'est le pasteur, mais qu'est-ce que vous avez fait autre? Mais c'est le maximum qu'on a pu offrir. Et la seule chose qu'on peut offrir, ce sont les ressources humaines. Ce sont les ressources humaines. Est-ce que c'est bien qu'on avait fait ça? Mon cœur, c'est bien ça? Non? Ou 7? Voilà. Le reste renouvela toujours son expérience avec le Dieu de son salut. C'est pourquoi voici les jours viennent où on dira plus l'Éternel est vivant, celui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël. C'est très facile comme image qui est utilisée ici. Il faut renouveler l'expérience avec le Seigneur en permanence. L'expérience forte de l'année dernière n'est pas suffisante pour cette année. Et l'expérience de ma jeunesse ne convient plus. Un témoignage peut être répété 3, 4, 5, 6 fois, mais après ça devient fatigant pour les oreilles. Même si c'est un témoignage extraordinaire, je me rappelle d'un boxeur de Paris qui était champion. Et que lorsqu'il a commencé à vieillir, quelque part au niveau de sa mémoire et de sa manière de présenter des choses, il répétait toujours la même chose. Quand il y avait la leçon de l'école du sabbat du haut de la chair, la chose la plus difficile était quand il se lève et il dit « quand j'étais jeune ». Alors tout le monde tourne avec les yeux et ils savent déjà l'histoire de ce que ça va être. Quand j'étais sur le ring et comment j'étais champion, etc. Même si c'est très intéressant comme histoire, à la fin ça devient lassant. On ne peut pas toujours seulement parler... Oh, c'est notre Seigneur qui nous a fait monter, ramener, vous voyez. Mais il dit, l'Égypte c'est une expérience pour nos pères et on va toujours s'inspirer. Mais il faudrait qu'on trouve notre propre expérience. C'est le reste qui renouvelle. Et tout ça c'est dans le contexte de leadership, donc du même chapitre. Le point 8, le vrai leader, Jérémie, partage sa souffrance qui provient du décalage entre la parole de Dieu et la situation du peuple. Au milieu, il y a une lamentation, ce qu'on appelle. Jérémie, quelqu'un qui est d'Anatot, de la ville d'Anatot, qui est au nord de Jérusalem, qui est un endroit magnifique, mais qui est en général peuplé par des Lévis ou les prêtres en retraite. Parce qu'en général, tous les souverains sacrificateurs, presque tous allaient passer leur retraite à Anatot. C'était très beau. C'est connu comme une ville des prêtres, des Lévis, des Lévites. Et lui qui vient de là, il pleure. Quelqu'un qui était destiné à servir comme prêtre ne l'était pas. Il est devenu prophète par l'appel de Dieu. Et il dit des choses qui sont au fond de son cœur. Il dit, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultères. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Moi, je vois de ce texte, comme d'ailleurs c'est dit ailleurs et même dans le livre d'Apocalypse, lorsque l'homme vit dans l'iniquité, son environnement se détruit. Inévitablement. L'écologie est toujours reliée à la question du salut. Ça paraît presque aberrant, mais c'est comme ça. Ceux qui détruisent la terre, c'est ceux qui n'ont pas le respect envers Dieu. Quand on aime Dieu, eh bien, on est correct aussi envers notre environnement. Et quand on dit là, la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, c'est la malédiction de Dieu, mais c'est la réalité qui se refait chaque fois lorsque l'homme s'éloigne de Dieu. Il n'est pas bon pour lui-même, il n'est pas bon pour les autres, il n'est pas bon pour l'environnement. C'est toujours comme ça. Ça, c'est une conséquence inévitable. Mais, comme il dit, le vrai leader partage sa souffrance qui provient du décalage entre la parole de Dieu et la situation du peuple. Donc, ils vivent la sécheresse, ils vivent... Tout était, quand vous regardez au chapitre 4 de Jérémie, c'était marqué... Je regarde et voici la terre est tohu va bohu. Dit textuellement, vous voyez, c'est-à-dire il fait allusion au chaos avant la création. On pourra juste trouver Jérémie 4, 25. Quelqu'un va lire pour que je me repose la gorge. Jérémie 4, 25. Et excuse-moi, c'était le 23, et tu continues jusqu'à 25.
Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancelent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite.
Merci beaucoup. Alors, imaginez dans quel contexte Jérémie parle. Nebuchadnezzar est venu. Il a rasé tout. Si vous ne comprenez pas, juste allumez la télé. J'ai vu les villages en Bosnie entièrement rasés. Ce qui voudrait dire raser là où il y avait, je connaissais avant, plein de maisons, par exemple, 50 000, 60 000 habitants, 20 000 habitants. Il n'y a plus rien. Il y a la catastrophe, la désolation. C'est à peu près cela qu'il voit. Il dit, je regarde la terre, elle est tohu va bohu. Elle est informe, invide. Ça rappelle la situation avant la création. Et il dit, je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Donc, il n'y a plus rien. Et ce décalage inspire Jérémie pour pleurer. D'ailleurs, il est connu comme un prophète qui pleure toujours. Même dans la chapelle Sixtine, c'est un prophète qui pleure. À cause du décalage, c'est ça qui est. C'est pas la question seulement qu'ils sont dans la difficulté, que la sécheresse est partout, etc., mais qu'il y a un grand décalage entre le plan de Dieu et leur réalité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Je ne sais pas quoi dire quand je vois cela, mais je me rappelle que j'ai eu l'occasion de travailler à Genève et Dieu était bon. Pendant 4 ans, les Suisses, pour ceux qui étaient à Collonges, ils nous ont accordé la possibilité de gagner beaucoup d'argent comme étudiants. Jusqu'au jour où il y avait un jeune étudiant en théologie qui est venu de Brésil. Et au lieu de servir comme un gardien de nuit, il est venu et il a travaillé dans un shopping center. Et ça lui a plu pendant la nuit. Et donc, quand ils font l'inventaire, ils le font une fois tous les 3 mois ou 6 mois ou 1 an. Et il a trouvé ça bien, comme c'était le plus grand shopping center de Genève. Alors, il a pris un téléviseur par là, un appareil par là, un computer par là, etc., etc. Et tout bizarrement, en passant la frontière, parce que nous sommes en France, Collonges c'est en France, et 6 kilomètres plus loin c'est Genève, du côté de la Suisse, il passait le matin, et en général il met toujours la casquette pour passer, parce que c'est la même casquette comme les policiers. Donc quand un douanier, qui a presque un uniforme similaire lorsqu'il nous voit, il juste montre le signe, on passe, et jamais personne nous a contrôlé. Et ce douanier était un peu ennuyé, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, au moins je vais parler avec les gens. Et donc il parle avec tout le monde, jusqu'à ce que la voiture suivante arrive, parce que le matin il n'y a pas beaucoup de monde. Et il voit, et il arrête. Monsieur, il ne donne pas le signe de passer. Il dit, bonjour, ça va. Juste, il voulait bavarder. C'est ce que lui, il avait dit après, au moment du tribunal. Et il dit, juste, je pose la question, comment ça va? Et il dit, je vois dans les yeux de ce monsieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit, est-ce que vous pouvez me donner vos papiers de voiture? Pourriez-vous ouvrir le coffre? Et quand il a ouvert le coffre, dedans, il y avait des télévisions, des machins, toute l'électronique possible. Et il dit, j'espère que vous avez des factures pour tout ce qui est là. Et l'autre, il a dit, assez, comment dirais-je, maître de lui-même. Il a dit, oh, bien sûr, je vais vous ramener tout. Et il a dit, merci d'avoir fait ça. Il a juste noté ce qu'il y avait. Il a laissé partir. Et il a dit, le jeune étudiant, ben écoutez, je vais venir dans une demi-heure, je vais vous ramener toutes les factures. Mais le douanier a tout de suite appelé la police. Et la police est allée, donc tout près du séminaire, il y avait un bâtiment où il habitait, qui n'appartenait pas au séminaire. Et quand ils sont venus, la police l'attendait déjà. Et ils ont tout fouillé, et ils ont vu qu'il avait 2 sous-sols. Ça c'est juste mon spark. Quelqu'un veut nous appeler pour discuter. En fait, ils ont découvert 2 compartiments, grands compartiments de sous-sol pleins d'électronique. Et vous savez comment c'était après. La dernière page de la Tribune de Genève, marqué l'étudiant en théologie volé dans le plus grand shopping center de Genève. C'est à peu près comme ça le titre. Le jour suivant, le directeur de Collonges, en interview, où il dit, celui-là n'est pas un adventiste. Et alors, nous on savait qu'il est adventiste. Alors, il répondait, beaucoup de gens peuvent s'appeler adventistes et ne pas l'être vraiment. Mais ce qu'il avait fait n'est pas adventiste. Donc il est adventiste sur papier, mais pas pour longtemps parce qu'il ne restera pas sur la liste. Mais je ne peux pas vous dire au moins il y avait une vingtaine d'articles de journalistes, parce que les journalistes se régalent quand il y a des choses comme ça. Et à la fin, je suis parti à cette époque-là. Et peut-être un an après, on ne pouvait plus recevoir le permis de travail pour la sécurité, parce qu'il disait qu'il faut d'abord 6 mois de séjour en Suisse avant de pouvoir travailler. Ce qui voudrait dire qu'on nous a tous éliminés. Et pourquoi ? À cause de quelqu'un qui avait fait des choses qui ne doivent pas être faites. Et à cause d'une erreur, je vais dire, on était 500 et quelques étudiants à Collonges et peut-être 100 personnes au moins travaillaient à Securitas. 100 personnes ont perdu leur travail. Justement à cause de ce qu'on peut trouver, les gens qui vivent dans le cadre de l'Église, avec les critères, avec les valeurs qui n'ont rien à voir avec, c'est-à-dire ils sont corrompus. 10, vous trouverez ça aussi ailleurs. C'est pourquoi, donc, Judas était pire que Samarie. Et Dieu utilise plusieurs fois, pas seulement dans ce texte. Il dit, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance, etc. Mais Jérusalem a fait encore plus de choses horribles. Et par exemple, Ézéchiel pose la question, moi j'ai pensé que lorsqu'ils avaient vu la fin de Samarie, ils auraient compris, ils auraient changé. Mais malheureusement, ils n'ont pas changé, ils ont fait encore pire. C'est ça la question, c'est que Dieu nous envoie un certain nombre de signes et nous, on ne se rend pas compte que ces signes sont adressés à nous. Et moi, je me rends compte, et ils disent là, ils ont égaré mon peuple d'Israël, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles, ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Je vous donne un exemple. Dans une fédération, peu importe laquelle, on se rendait compte que les gens qui travaillaient pour la fédération, mais pas directement, mais à travers les églises locales, c'est pas ici, c'est pas au Canada, étaient mal payés. Mais comme la fédération avait dit, ok, ils ne travaillent pas directement pour nous, on ne s'est pas occupé très sérieusement. Il y avait quelqu'un qui avait travaillé pendant 20 ans et lorsqu'il est venu à la retraite, il a fait l'application au gouvernement et le résultat était qu'ils étaient... ils ont dit, il faut regarder avec l'Église et l'Église lui a dit, après 20 ans de service, qu'il n'a pas le droit à la retraite. Alors, il dit, mais comment est-ce que c'est possible, etc. Et cette personne est partie sur l'aide sociale, tout simplement parce que l'Église ne s'est pas sentie concernée. J'étais à un comité qui a discuté avant, et je me suis rendu compte que ça ne changera pas, parce que dans leur mentalité, c'était normal. Je me suis dit, ok, je vais marquer mon nom pour dire que je suis contre, parce qu'en général, on ne... n'enregistre pas les votes contre. Mais si vous insistez, vous pouvez dire, j'aimerais bien que mon nom soit mentionné, que je ne supporte pas ces décisions. Et je me rends compte que lorsque la chose est devenue un peu plus complexe, en Europe, c'est toujours un peu difficile si le gouvernement commence à mettre son nez dans votre affaire avec toutes les vérifications, etc., etc. Je sais combien ceux qui étaient à côté, et je ne dis pas pour dire que j'étais très content, mais quelque part, je suis toujours à promouvoir que l'Église n'a pas le droit de mal payer ses ouvriers. Elle n'a pas le droit. Nous sommes regardés, observés. Nous sommes un témoignage, nous sommes une épître écrite. Par Dieu, j'espère, à tous les hommes. Et quand l'Église, comment dirais-je, ne glorifie pas le nom de Dieu, ça pose problème. Et quand j'ai écouté ce que nous avons dit, je suis toujours dans l'étonnement que le leadership n'encourage pas les activités des membres, quels qu'ils soient. Parce que nous devons toujours être honnêtes et impartials. C'est le minimum. Si nous voulons vraiment être des leaders selon le cœur de Dieu, parce que c'est ça la question. Moi, je peux me débrouiller, travailler à ma manière. Mais si c'est selon le cœur de Dieu, alors c'est une autre histoire. Trop souvent, on voit que l'Église rassemble au monde. Et c'est un peu l'histoire de Judas, de Jérusalem et de Samarie. Mais je me dis, je n'ai pas besoin de m'inquiéter en ce qui concerne Australie, en ce qui concerne Fidji, en ce qui concerne France Nord, France Sud, la Suisse romande ou je ne sais pas quoi encore. J'ai mon Église. Et je dois tout faire pour que mon Église fonctionne bien. Si Dieu veut à ce que Karine, c'est ça? Karine. Si Dieu veut à ce que Karine influence la vie de la division nord-américaine, il va lui donner la responsabilité pour cela. Je ne suis pas du tout convaincu qu'un membre de Norwood devrait régler tous les problèmes de la division nord-américaine, par exemple. Ce n'est pas prévu. Mais ceux qui sont en charge de la division nord-américaine, il faut qu'ils fassent tout pour être des leaders selon le cœur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui demandera de leurs mains comment ils ont géré ce qui leur a été confié. Donc je dis à un membre d'église, j'ai reçu message de quelqu'un d'Alberta qui était très mécontent parce que les pasteurs ont suivi une formation et comme ça. Parce que cette formation était présentée par quelqu'un qui était lié avec des maçons, je ne sais pas. Mais ça n'a rien à voir avec les maçons ou religion. C'était une formation apparemment assez intéressante. Mais elle connaissait le background, elle était tellement fâchée. Mais je lui ai juste posé la question quand j'ai tout écouté. J'ai dit, ma sœur, comment va votre église locale? Et puis on a commencé à parler. Il tournait toujours et partait ailleurs. Parce qu'elle prend soin de la fédération, elle prend soin de l'union, elle prend soin de ci ou ci, elle prend soin de partout, elle prend soin de partout. Eh bien, je lui ai dit très gentiment que je suis convaincu que Dieu nous donne une tâche très importante là où il nous place. Alors, s'il nous place dans le cadre d'une église locale, nous devons tout faire pour que cette église locale puisse prospérer. Avec l'aide de Dieu, avec sa grâce, etc. Mais Dieu ne nous donne pas automatiquement le droit d'envoyer des missives à tout le monde, dans le monde entier. Attends, il y a ceux qui sont en charge. Et lorsque tu seras là-bas, ben, tu auras beaucoup, beaucoup de possibilités. Si tu es honnête, tu lis la Bible, et tu vas dire, ben, probablement on n'a pas pris la bonne décision. Et on va dire, et on va voir ce que ça donne comme résultat. Mais je ne suis pas du tout d'accord à ce que lorsqu'on voit que l'Église ressemble au monde, qu'automatiquement Dieu nous appelle à nous de régler 64 000 problèmes au Canada, parce que nous sommes 64 000 membres, et de régler je ne sais pas le problème de combien d'institutions, etc. Et je suis très content de savoir que notre Église est organisée de telle manière que théologiquement on ne discute pas localement. Au moins, c'est une protection incroyable et je prie qu'on ait assez de sagesse pour rester unis théologiquement. Lorsqu'on va commencer à le faire localement, ça va être la catastrophe. Même si maintenant vous vous rendez compte, si vous lisez les forums, on commence à discuter la théologie à tous les niveaux, alors que nous nous sommes mis d'accord de discuter la théologie uniquement quand nous sommes tous ensemble. Mais ça, c'est entre parenthèses. Le niveau... maintenant, il faut que j'arrête, non? C'est ça? Le niveau spirituel des leaders... Vous me donnez encore 5 minutes? Le niveau spirituel des leaders détermine le niveau spirituel de l'Église. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je leur ferai boire des eaux empoisonnées. C'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Est-ce que vous comprenez cela? Comment l'impiété se répand? Par les leaders. Quand quelqu'un est leader, il fait des bêtises, ça encourage presque les gens de faire la même chose. Oh, mais c'est la femme de pasteur qui fait ça. Ouais. Écoute, ça devient presque naturel. Mais...
Parce que là, je leur conscience, ils voulaient déjà prendre le bord, mais ça les justifie.
C'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Et quand vous lisez dans l'original le texte de répandu, vous allez voir comment c'est. C'est un peu comme, si vous vous rappelez du film de Ten Commandments, vous vous rappelez avec les 10 plaies d'Égypte, et surtout quand il y avait la dernière plaie, lorsque les premiers-nés devaient mourir, bon, il y avait comme un nuage qui montait les escaliers, qui allait un peu partout. C'est cette image-là. Tout, comment on appelle ça, presque en cachette, invisiblement, cela se déroule, ça devient, ça envahit. Peut-être le mieux serait que l'impiété, doucement mais imperceptiblement, a envahi tout le pays. Je dirais un peu comme ça. Il n'y a que la Bible qui peut nourrir le troupeau. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Le mot néant, c'est exactement le même nom comme vanité ou comme le nom qui est souvent utilisé. Vous savez ce que c'est? Vanité, dans hébreu, se dit Abel. C'est très intéressant. Abel des Abel, tout est Abel. Comme Caïn et Abel. Alors c'est vraiment intéressant de savoir que Abel signifie en fait, littéralement signifie vapeur. Ouais, quand il y a l'hiver ici, l'hiver est long, vous pouvez observer longtemps. Vous sortez dehors et puis vous voyez la vapeur qui sort. C'est-à-dire quelque part probablement Abel a disparu jeune. Et quelque part à travers son nom, on comprenait non pas seulement cette idée de l'esprit, parce qu'il y a derrière l'idée de l'esprit. Quand on dit vapeur, c'est qu'il y a le souffle, il y a, comment dire, quelque chose qui bouge. Donc probablement au départ, ça devrait signifier inspirer. Mais en réalité, c'est devenu la vanité, vapeur. Ah, sa jeunesse est partie. C'est presque inutile parce qu'il est mort jeune. Et je dirais pour nous tous, comme je suis content d'entendre ce genre de témoignage, une jeune fille qui était Nathalie, n'est-ce pas? Une jeune fille qui souffrait beaucoup de dépression et de problèmes, etc. À un moment donné, Dieu l'appelle. Elle sent bien que Dieu existe, elle voit l'action de Dieu dans sa vie. C'est un peu cela, parce qu'il y a tant de jeunes, comme disait Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, il disait « Je suis très malheureux pour ceux qui meurent à 20 ans et sont enterrés à 80 ans. » Donc c'était sa manière de parler de ceux qui vivent et ne savent pas pourquoi ils vivent. Donc, leur vie, ils sont morts déjà. Lors de leur jeunesse, on les enterre lorsqu'ils ont 80 ans. C'est un peu cette idée-là. Donc, quelque part, quand on dit « entraîne des choses de vapeur, de nullité », il n'y a rien. Et si on réfléchit bien, permettez-moi de vous dire, le livre d'Ecclésiaste déclare « vanité des vanités, tout est vanité ». Est-ce que ça signifie que vraiment tout est vanité? Mais si on regarde littéralement, c'est comme ça. Cependant, on a des arguments littéraires pour dire que ce n'est pas comme ça. Le passage central, je crois que c'est le chapitre 8 de l'Ecclésiaste. qui commence en disant, il vaut mieux, c'est mieux de faire comme ça. Il dit, un bon nom vaut mieux que ceci et cela. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Et on se rend compte que même le message, que le message d'Ecclésiaste, non, pardon, c'est le chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Chaque verset, c'est vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. Verset 3. Mieux vaut le chagrin. Verset 4. Verset 5. Mieux vaut entendre la réprimande, etc. Verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose. Verset 11. Mais donc la sagesse vaut autant qu'un héritage, car à l'ombre. Mais un avantage de la science, c'est que donc mieux vaut la science, c'est-à-dire la sagesse, car la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est dans ce chapitre, c'est un poème qui s'appelle « Mieux vaut » en original. Donc, si on dit « mieux vaut », on ne peut pas admettre que rien n'est valable. Donc, si on dit « tout est vanité », dans ce cas-là, il n'y a rien de mieux, parce que tout est vanité. Donc, s'il y a quelque chose qui vaut mieux qu'autre chose, ça veut dire qu'il y a quand même des valeurs. Et c'est pour cela qu'on se rend compte que, en dehors de Dieu, tout devient néant, tout. Et avec Dieu, tout a un sens.